Henri, donneur de voix numéro 318 de la Bibliothèque Sonore Grenoble-Isère. Extrait de la lettre de confinement numéro 34 d'Olivier Calon. Le mot du jour. Promesse. Promesse sans don ne vaut guère, peut-on lire dans le roman de la Rose, publié au XIIIe siècle. Ainsi, alors que le mot n'est apparu dans la langue française qu'un siècle plus tôt, la promesse suscite déjà la méfiance et demande des garanties. Un siècle plus tard, ça ne s'arrange pas. Promesse est vent, écrit Guillaume de Machaut. Mais peu à peu, en plus de désigner un engagement à respecter, le mot a aussi pris le sens d'espérance que suscite une personne ou une chose, surtout à travers son adjectif prometteur, un été prometteur, perdant ainsi son aspect coercitif et contraignant. On sait que, comme l'affirmait le radical Henri Cueil, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y croire. Ils finiront bien par arriver, ces masques qu'on promet, et ce vaccin prometteur. André Gide dit « La promesse de la chenille n'engage pas le papillon. » La pensée du jour, de Jacques Chirac. « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est ce que j'ai toujours dit. » Le poème du jour, « Ne te retourne pas » de Esther Granek. Sur le chemin où tu chemines, jour après jour, face au levant, musardant ou ployant l'échine, et parfois aux heures divines, cueillant la fleur et contemplant l'œil attendri, dans l'écrin de tes paumes unies, des étamines et des corolles aux lignes rares ou sages ou folles, sur ce chemin de tous les temps, pour quand tes mains ouvertes en bol, où tu regardes en t'émouvant, ne se faufile s'interposant l'image aux traits si dégrisants des lendemains de fleurs d'antan. Ne te retourne pas. Anecdote littéraire. Enfant, Romain Gary, qui s'appelait alors Romain Cassou, éprouvait une passion intense et réciproque pour sa mère. Celle-ci, Nina Cassou, émigrée russe installée en France, rêvait pour son fils d'un avenir glorieux, et se sacrifia pour lui permettre d'étudier et de côtoyer la bonne société de Nice où il vivait. Actrice sans renom, elle s'était séparée de son mari peu après la naissance de leur fils. Pour ne pas la décevoir, Romain Gary, étudiant à Paris, lui faisait croire que ses textes étaient publiés par la revue Gringoire sous le pseudonyme de André Cortis. Il envoyait à sa mère les articles de ce dernier, qui existait vraiment, mais qui, heureusement pour l'imposteur, ne fit guère carrière. Sa mère ne découvrit jamais la supercherie. C'est ce même journal, Gringoire, qui publia en 1935 la première nouvelle de Romain Gary, intitulée « L'orage ». Elle était signée de son vrai nom, et le jeune auteur, il avait 20 ans, n'eut plus besoin de mentir, pour susciter la fierté maternelle. Un peu plus tard, en 1939, à l'issue de sa préparation militaire supérieure, il fut le seul de sa promotion à ne pas être nommé officier. Il expliqua alors à sa mère qu'il avait séduit la femme du commandant et que cela lui avait coûté son galon. Le romancier avait beaucoup d'imagination. En réalité, il fut recalé pour indiscipline. Nina Cassou fut aussi dévouée à son fils qu'elle fut despotique avec lui, reportant sur Romain les ambitions dont elle avait été frustrée. En 1960, Romain Gary publiera « La promesse de l'aube », un des plus beaux hommages de la littérature à l'amour d'une mère. Avec l'amour maternel, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Anecdote historique. La célèbre bataille de Fontenoy, « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !» se déroula le 11 mai 1745 dans le Hainaut belge. elle opposa la coalition anglo-hollando-hanovrienne, dirigée par le duc de Cumberland, à l'armée française menée par le maréchal de Saxe. Ce dernier était si gros qu'il ne pouvait monter à cheval et devait parcourir le front de ses troupes dans une voiture légère, spécialement conçue pour lui, en fer et en osier. La bataille fut longtemps indécise, et les charges de la cavalerie française durent se succéder pendant plusieurs heures avant d'assurer la victoire finale. Les combats firent plus de 12 000 victimes. À son fils, le dauphin Louis, alors âgé de 15 ans, qui manifestait sa joie à l'annonce de cette victoire, Louis XV dit « Voyez tout le sang que coûte ce triomphe. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de les épargner. » Le dauphin n'eut pas à connaître ces déchirements. Il mourut avant de pouvoir monter sur le trône.